travailleuses, travailleurs, camarades, camarades et amis. Alors, je voudrais d'abord commencer par quelques mots sur le feuilleton Fillon, parce qu'il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. Parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi les informations de ce soir, mais on découvre que décidément, Fillon est un vrai cachotier. Parce que dans son opération transparence, eh bien, il a quand même omis encore deux ou trois détails. D'abord, que sa femme a touché des indemnités de licenciement pour 45 000 euros. Et puis qu'elle a cumulé les deux emplois, l'emploi d'assistante, collaboratrice, compagne de travail de François Fillon et l'emploi à la revue des Deux Mondes. Alors vous voyez que grâce à toute cette affaire, eh bien on découvre un nouveau genre de travailleuse. Une travailleuse qui travaille dur, qui est très bien payée et qui ne s'en rend même pas compte. Alors, peut-être que demain, François Fillon tiendra une conférence de presse pour s'excuser d'avoir oublié de parler des primes de licenciement de sa femme. Hein. Dans tous les cas, on connaît déjà sa défense. Hein. Il n'y avait rien d'illégal. Voilà. Comme si c'était ça le problème. En fait, Fillon ne s'en rend pas compte, hein, mais le problème... C'est le décalage qu'il y a entre ses leçons de morale qu'il fait aux travailleurs et ses propres actes. Voilà. La réalité, c'est qu'il est révélateur d'une classe politique qui est socialement étrangère à la classe ouvrière et qui est en fait hostile aux travailleurs. Et je tiens à rajouter aussi que ce sont les mêmes comportements. C'est la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG et ses grands actionnaires qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez et qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors, oui, c'est vrai, Fillon est bien à l'image de ces gens-là. Après sa séance d'excuses, et surtout parce qu'il n'y a pas d'autres candidats alternatifs, il semble avoir ressoudé son camp derrière lui. Qu'est-ce qu'il en sera pour les électeurs de droite? Est-ce que Fillon, d'ailleurs, ira jusqu'au bout? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Et puis maintenant, pour la gauche, eh bien, regardez comment les Hamon ou les Macron hein, cherchent encore aussi à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat de Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA et aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui tous les deux, hein, qu'ils nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petits nouveaux de la politique, pleins d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron... C'est le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par les auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, oui, ils sont libres, mais ils sont libres de s'auto-exploiter pour le compte des grands groupes capitalistes. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition d'un revenu de base universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022 parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Et il n'y a que chez les riches qu'on se vante de gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Alors oui, il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records et les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. la fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous voulons. C'est une politique qui répond à nos intérêts. Avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné et d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation et le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise, attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut par exemple baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, eh bien, elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Le Pen, c'est notre Donald Trump française. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et sur les plus pauvres, à condition bien sûr qu'ils soient français. Parce que Marine Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les vrais responsables du recul de la condition ouvrière. Elle s'indigne, par exemple, de ce que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Mais pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn, chez Renault-Nissan, gagne 45 000 euros par jour. Pas qu'une bourgeoise comme Bettencourt empoche 1 million par jour. Elle se dit révulsée qu'on héberge des migrants plutôt que des SDF français. Mais elle ne s'indigne pas qu'il y ait des SDF, non. Elle nous explique qu'il y a deux catégories et que l'une d'entre elles peut très bien crever. Alors non, quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Hamon ou Macron, eh bien, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Ils sont tous respectueux de l'ordre capitaliste et du monde bourgeois. Et une fois au pouvoir, eh bien, ils gouverneront pour le compte de la bourgeoisie. À l'opposé de tous ces candidats, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, tout en étant payés une misère, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays, qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. À l'opposé des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon, qui se préparent à servir la bourgeoisie, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur propriété, leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est la dictature du grand capital sur l'économie ou l'intérêt collectif des travailleurs et de toute la société. Il n'y a pas d'entre-deux, il faut choisir son camp, et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs, il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie, et qui ont, eux aussi, à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber, par exemple. C'est aussi le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et puis, je le précise, parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats, il ne s'agit pas seulement des intérêts des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité et de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre, et elle favorise en retour le repli communautariste. Alors dans cette élection, je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de nos couleurs de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Alors il faut serrer les rangs, il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et dans cette élection, eh bien, il faut affirmer nos intérêts, nos besoins et notre politique. Faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique pro-patronale des autres candidats est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, travailleurs, ce match est truqué. Alors, il ne faut pas marcher dans cette duperie électoraliste. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous, disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste. Et parallèlement à leur comédie électorale, eh bien, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices, sous peine d'expropriation. Regardez PSA, Peugeot Citroën. Ce groupe a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore 650. Toutes les grandes banques suppriment des emplois malgré leurs bénéfices gigantesques. Alors ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Mais ce sont autant d'emplois qui disparaissent. Et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors il faut commencer par stopper tous ces grands fabricants de chômeurs. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mises à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et puis parallèlement, parce qu'il y a 6 millions de femmes et d'hommes qui n'ont pas d'emploi, eh bien il faut créer aussi des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut ajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe dans quasiment tous ces grands groupes, avec ces plans de compétitivité où on concentre le travail sur de moins en moins de salariés en leur imposant heures supplémentaires et samedi obligatoire. Et puis, regardez dans les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Est-ce que... Regardez cette catastrophe de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il manque 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société. Et donc, il y a autant d'emplois à créer en face. Certains nous expliquent, Hamon par exemple, qu'avec la modernisation des moyens de production et avec les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Parce que ces robots et les gains de productivité devraient au contraire permettre de soulager les salariés, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Même si le travail se raréfie, on peut le répartir entre tous. Mais bien sûr, cela suppose que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Mais si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que nous compterons, c'est 7, 8, 9 millions de chômeurs. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage, c'est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise. Mais aussi, il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. Et puis à côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent tous qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen, par exemple, explique qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, ça ne compte pas ça ? Le Pen et les autres candidats s'en moquent. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois davantage encore. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut encore payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 4 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis là-dessus, il y a encore les impôts. Les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, c'est encore plus serré. Alors, oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ils doivent être transformés en salaire parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, est-ce que vous vous souvenez à quel montant était le SMIC ? Eh bien, le SMIC, il y a 10 ans, était à 1 euros net. Aujourd'hui, il est à 1150. Cela fait une augmentation en 10 ans de 15%. pour nous, augmentation de 15% en 10 ans. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG en 10 ans, dans cette même période? Eh bien, de 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et taxes, des péages d'autoroutes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour se rendre compte que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors, ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions de retraite suivent le coût de la vie. Sur ce programme, de bonnes âmes qui, elles, étaient bien payées, souvent à plus de 1 800 euros par mois, m'ont expliqué que donc, ces mesures, que ces objectifs étaient complètement utopiques et qu'ils forceraient nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. Hein, c'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie que d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Arnaud, Bettencourt, avec leurs dizaines de milliards, ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde réel, dans notre monde. Alors dire que 1 800 euros est de l'utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce qu'en réalité, pour y parvenir, il va falloir renouer avec les luttes collectives et imposer un nouveau rapport de force au patronat. Un rapport de force tel qu'ils prennent peur et qu'ils cèdent. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple de Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette. Ici, dans la région, je crois que c'est le cas d'un des magasins qui va fermer. Qu'est-ce qui a tué le groupe Vivart? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Parce qu'un gérant de magasin y est payé 1 400 euros par mois et tous les autres employés sont payés autour du SMIC. Alors ce qui a tué Vivart, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe et qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien de ces mêmes fonds capitalistes à des taux de 11-12%. Eh bien, si les salariés du groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer, pour se défendre. Il est de bon ton pour les politiciens de parler de transparence, mais ils empêchent les travailleurs de l'imposer. Y compris lorsque des journalistes lèvent des lièvres, hein, regardez dans cette affaire Fillon, eh bien, vous les entendez tous s'indigner. Fillon, par exemple, hein, il est offensé aujourd'hui qu'on lui demande des comptes. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, au moindre retard, à la moindre absence. On est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Et c'est pareil pour les chômeurs qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, fournir des preuves, justifier de leurs demandes s'ils repoussent un rendez-vous. C'est pareil quand on est en arrêt maladie. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, Les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Enfin, à une vraie assistante qui travaille vraiment. Hein. Rien ne lui échappe parce que tout simplement, c'est elle qui prépare le courrier. C'est elle qui le tape, qui l'envoie. Alors, collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Ça, les patrons le savent. Et en réalité, ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé le secret professionnel. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs. En donnant de nouvelles armes aux travailleurs, il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir et ils pourraient s'organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et puis oui, si on avait la possibilité de voir tout l'argent qu'il y a dans ces grands groupes capitalistes, eh bien on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation leur rapporte. Et on mesurerait aussi qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et c'est un programme de survie pour la classe ouvrière. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. Contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat démarre dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées, dans le combat politique. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'aller dans ce sens. Eh bien, il faut y aller. Voilà. Alors, nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des années, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections, parce que les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts à un moment donné, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes sociales, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de manière ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien, tout cela participe de la construction du parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour porter sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique qui est plaisante aux oreilles. Mais concrètement, il manque les paroles. Cette petite musique ne débouche que sur peu d'engagements concrets. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, c'est tout de même le minimum. Il promet le SMIC net porté à 1326 euros. Pourquoi ? Ça, je n'en sais rien. Et il promet aussi les vraies 35 heures. Bon. Ceci dit, même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont en réalité des promesses en l'air. Parce que tant que l'on ne dit pas comment on l'imposera au grand capital, et tant qu'on ne se dit pas prêt à opposer à la minorité capitaliste la force collective des travailleurs, eh bien on parle pour ne rien dire. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement, hein, je vous rappelle. Mais il faut dire si l'on est prêt ou pas à la renverser. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie sur la propriété privée des moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions, nous dit-il, souverains. Ce sont des mots en l'air pour les travailleurs et pour les exploités. Parce que les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir sur nous de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires de travail, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Et puis, c'est aussi faire croire qu'il y aurait des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie de France. Alors laissons tous ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète, émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Alors Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis, ça c'est sûr. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, Eh bien, nous, notre campagne, nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera une campagne constructive. Une campagne et un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs. Nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Bernard Arnault sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les trains, sans les avions. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se répartissent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Ils ont réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Le pouvoir, ce pouvoir ouvrier, a aussi mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux de pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en caricaturant, en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre, et il fait le lit de la délinquance, du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. À ce propos, je veux exprimer mon entière solidarité aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui offrent un toit, un repas chaud et de l'aide aux migrants. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, sont arrêtés, gardés à vue, poursuivis en justice. C'est ce qui se passe, par exemple, dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Tout simplement parce qu'ils se comportent humainement. Eh bien, si se conduire humainement est un délit, vive le délit d'humanité. Et sur le fond, sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut élever des frontières toujours plus hautes, toujours plus étanches. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot, les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions, l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards, et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes, ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au fond, ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou une retraite décente à tous. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour que l'on se partage la misère, c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons, et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples. Rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes origines, toutes nationalités, de toutes religions, de toutes couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, mais aussi débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Alors oui, nous sommes fiers de nous revendiquer de ce camp-là. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers peut-être ? Bien sûr que non, hein, de femmes et d'hommes comme nous qui travaillent souvent dans les métiers les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle produit elle aussi des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers il y a 2 ans d'être indépendants, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, dans toutes les entreprises. Eh bien, il faut aussi que les travailleurs s'expriment sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, donc sert à élire quelqu'un et forcément il faut choisir. Celui qui peut être élu. Avec cette logique, il faut parier sur le tiercé de tête et évidemment, je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera des coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour l'un ou l'autre ? Eh bien, dans cette élection, c'est pareil. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui aidera le patronat à baisser nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. Alors j'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Il faudrait recommencer avec un autre. Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, en espérant se protéger, est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les mobilisations puissantes, avec les luttes collectives. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre et c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester. Parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, eh bien la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, et quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Alors je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont faites comme ça. Il fallait un nom, et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas non plus de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et puis je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation, mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est pas rien, parce qu'une campagne comme celle-ci, relayée à l'échelle nationale, eh bien, elle permet justement de s'adresser à des millions de femmes et d'hommes. Et parmi ces millions, eh bien, il y en a plusieurs centaines qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp, et elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions, c'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés par la politique qu'ils ne veulent même plus entendre parler du vote. Ils sont dans nos familles. Ils sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est quelque chose de très important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle sont confrontés des millions d'exploités. Et tôt ou tard, eh bien, ils auront besoin de toutes ces idées. Alors rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Alors voilà, pour finir, vous l'avez compris, pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, eh bien il faut que ce soit une campagne militante, il faut aussi que ce soit votre campagne. Alors pour conclure, je veux juste que vous fassiez un petit effort de projection dans l'avenir et qu'on se projette en mai 2017. au lendemain de l'élection, en mai donc 2017, qu'est-ce qui aura changé pour nous? Eh bien, nous retournerons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. Et puis on se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière, parce que c'est cela qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener après mai 2017.